vendredi 30 août 2024. Il nous aura fallu au total autour de 2h30 minutes pour parcourir 145 km de bitume, 20 km de pistes entremêlées de flaques d'eau et de boue. Non sans oublier les diverses escales, d'abord à la préfecture d'Azopé pour échanger avec les responsables de l'Office ivoirien des parcs et réserves. Ensuite, saluer l'autorité sous-préfectorale de Biébi, s'entretenir avec les comités bénévoles qui appuient l'OIPR et enfin obtenir, sous une pluie de bénédictions, l'autorisation dans la pure tradition ivoirienne de la chefferie du village de Mebifo, située dans la périphérie de la réserve naturelle de Mabiyaya. Juste des formalités, des civilités d'usage à respecter, des étapes à franchir officiellement, avant que la délégation de 7 journalistes de la presse écrite en ligne et audiovisuelle, conduite par 2 membres de l'ONG IDEF, ne pénètre dans l'aire protégée. Logée dans la région de la Mé, au sud-est de la Côte d'Ivoire, la réserve naturelle de Mabiyaya, qui s'étend sur près de 62 000 hectares, joue un rôle fondamental dans la conservation des écosystèmes locaux et des espèces menacées. Quel est à ce jour l'état de conservation de ce patrimoine en termes de biodiversité, à savoir la faune et la flore diversifiée qu'il abrite, incluant de nombreuses espèces endémiques et rares? Quels sont les défis et menaces auxquels elle est confrontée? Quel est le degré d'engagement des communautés locales? Autant de questions qui trouveront un écho favorable auprès du directeur de zone sud-est à l'OIPR. Sans plus tarder, je vous propose de découvrir la réserve naturelle de Mabiyaya avec le colonel Alain Toulot. Bienvenue à tous.
Radio de la paix. Se parler. S'écouter. Se comprendre.
Colonel Toulot Alain, bonjour.
Bonjour madame.
Comment est née la réserve naturelle de Mabiyaya? En un mot, pouvez-vous nous conter l'histoire de cette réserve?
La réserve naturelle de Mabiyaya est née de la volonté des populations de la région de la Mé qui ont estimé à un certain moment que leur patrimoine forestier, leur forêt, était en train d'être dégradée. Et donc, elles ont décidé de prendre leur destin en main et de taper à toutes les portes pour que ces deux forêts, qui étaient d'abord des forêts classées, puisque c'est les forêts classées de Mabi et de Yaya, et ces forêts classées étaient agressées, les populations se sont dit que c'est notre patrimoine, ça nous a été légué par nos parents, et aujourd'hui on constate que ces deux forêts sont en train d'être dégradées. Donc les populations se sont mises ensemble et elles ont saisi le conseil régional, et le conseil régional de la Mé, qui a bénéficié de l'appui de l'ONG Nitidé, dans le cadre du projet Red Plus, ont donc décidé de porter le projet. Et fort heureusement, leurs préoccupations sont tombées dans un contexte assez favorable, puisque à cette période, l'État ivoirien a décidé de faire face à la dégradation de ses ressources forestières par l'adoption d'une nouvelle politique forestière qui est la politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts, qui s'est traduite en stratégie en 2019. Et dans le cadre de la mise en œuvre de cette stratégie de protection, de réhabilitation et d'extension des forêts, le nouveau code forestier a été adopté. Et en son article 30, prévoit une disposition qui dit que les forêts classées les mieux préservées peuvent être surclassées en parc ou réserve. Et donc, avec la volonté des populations et le contexte favorable à la réserve, le président de la République, lors du conseil des ministres du 30 octobre 2019, a créé la réserve naturelle de Mabiyaya, qui est la fusion des parties les mieux conservées des forêts classées de Mabi et de Yaya.
Alors, selon vous, quelle est l'importance de la réserve naturelle de Mabiyaya pour la biodiversité locale et même nationale?
Il faut dire que la réserve naturelle de Mabiyaya regorge beaucoup d'espèces animales. Elle regorge une faune riche et variée, et vous avez des espèces emblématiques comme les chimpanzés et l'éléphant, les bongos, qui existé dans cette réserve. Et également dans la région de la Mé, en tout cas c'est le plus grand bloc forestier au sud-est de la Côte d'Ivoire. Et donc cette réserve a donc un rôle écologique important à jouer. Et également dans le domaine de la préservation de la biodiversité, puisque l'une des espèces phares aujourd'hui, les chimpanzés, on le retrouve dans la réserve. Et donc si éventuellement la réserve disparaissait, on aurait perdu en tout cas une espèce emblématique qui est le chimpanzé. Fort heureusement, avec le renforcement, bien le cycle classement des parties conservées des forêts classées de Yaya et de Mabi. Aujourd'hui, on a une réserve et le statut étant renforcé, l'EIP a pris en main et a mis en place un certain nombre de mesures qui déjà nous ont permis de confirmer la présence du chimpanzé à l'intérieur de cette réserve qui, jadis, était considérée comme une espèce qui avait disparu de la zone.
En dehors du chimpanzé, il n'y a pas d'autres espèces?
Si, il y a d'autres espèces. Il y a la réserve, en son temps forêt classée, abritait également l'éléphant. Il y a une espèce aussi emblématique qu'on appelle le bongo. Et puis, il y a des espèces de céphalophes qui sont à l'intérieur de cette réserve-là. Et aujourd'hui, avec la prise en main, on sent une recolonisation de ces espèces-là.
En dehors de ces espèces que vous venez de citer, y a-t-il des oiseaux? Y a-t-il d'autres animaux?
Oui, il faut dire que la réserve regorge 52 espèces de mammifères et plus de 247 espèces d'oiseaux. Donc, c'est une réserve qui est riche en avifaune et qui est également riche en mammifères.
Qu'en est-il de la flore de cette réserve?
Ah, la flore, cette réserve regorge une flore également très très importante. Elle a été dénombrée à l'état actuel de connaissance près de 248 espèces végétales qui ont été décrites dans la réserve. Dont le gigantesque macouré qui constitue aujourd'hui un attrait touristique de cette réserve. Comment quand vous arrivez, l'envergure de ce macouré aujourd'hui attire un bon nombre de touristes qui viennent le découvrir.
Quel est le rôle essentiel que joue le macouré?
Le macouré, c'est une espèce qui est dans la zone, qui est utilisée par les populations pour guérir un certain nombre de maladies. Dans les échanges avec les populations, elles ne sont pas allées pour le moment très loin dans les recherches, mais le macouré a des vertus ethno-botaniques qui sont utilisées par les populations.
Quel est à ce jour l'état de conservation de cette réserve? Est-elle, oui ou non, bien conservée?
Oui, c'est une réserve qui est bien conservée. Le surclassement de ces forêts, puisque c'est les deux parties les mieux conservées des forêts classées de Mabi et de Yaya qui ont été érigées aujourd'hui en réserve. Donc, cette réserve a un état de conservation assez intéressant. Aujourd'hui, c'est autour de 10% du taux de dégradation. Donc, ça veut dire que la réserve est préservée à hauteur de 90%.
Cette réserve, elle est préservée par qui? Par la population locale, par l'OIPR?
Depuis 2002, le réseau des parcs nationaux et réserves est géré par l'Office ivoirien des parcs et réserves. Donc, c'est l'OIPR qui a en charge la gestion de cette réserve. Mais l'OIPR, dans son système de gestion, considère les populations comme des partenaires. Nous, dans notre système de gestion, les populations ne sont pas nos ennemis. C'est pourquoi il y a un programme spécial qui est dédié aux populations qu'on appelle les mesures riveraines. Et à travers ce programme, on veut avoir l'adhésion des populations, accompagner l'OIPR dans la préservation des parcs nationaux et réserves, étant donné que ce sont ces populations qui sont les premiers protecteurs de cette forêt, puisqu'elles dorment à côté, elles se réveillent à côté, c'est leur patrimoine. Et quand vous avez leur adhésion, vous avez leur accord, ou bien vous avez, elles sont avec vous, vous avez déjà gagné le combat à près de 90%.
Alors, les populations riveraines sont les premiers protecteurs. Comment s'opère la sécurisation de la réserve? Comment sont conduites les opérations de surveillance?
Je ne veux pas trop rentrer en détail, mais je vais juste dire que les opérations de surveillance sont menées par l'EIPM, mais bénéficient de l'appui des populations dans l'accompagnement de nos équipes sur le terrain, dans la mise en place des systèmes de renseignement. Elles connaissent mieux la réserve et elles nous orientent par moment sur le terrain en vue de la connaissance véritable de cette aire protégée. Même en termes de tourisme, elle maîtrise beaucoup plus la réserve et elle nous oriente dans l'identification des attraits touristiques. Donc en termes de protection, elle joue un rôle très très important, mais je ne vais pas aller beaucoup plus en profondeur pour des secrets quand même de professionnels.
Alors quel bénéfice pensez-vous que cette réserve apporte à la communauté environnementale?
D'abord, il y a un organe qui est mis en place au niveau de l'EIPR qu'on appelle le comité de gestion locale. Le comité de gestion locale de la réserve fonctionne comme un conseil d'administration, comme le conseil d'administration de la réserve. Et dans ce comité de gestion locale, ce comité est composé de 15 membres statutaires. Il y a 5 représentants de population, dont 3 chefs de village, 2 autorités, 2 députés. Donc, c'est dit que les populations sont représentées déjà dans le conseil d'administration de la réserve. Mais en dehors de cela, tous les ateliers ou toutes les rencontres que nous tenons pour les prises de décision sur la gestion de la réserve, elles sont consultées, elles participent à toutes ces rencontres. En termes d'activité sur le terrain, au niveau de la surveillance, elles accompagnent nos équipes et tout ce qui est activité d'aménagement qu'on mène, notamment les entretiens des pistes à l'intérieur de la réserve, les aménagements qu'on fait, le suivi écologique, la recherche, tout ça bénéficie de l'appui des populations. Et toutes ces activités, toutes ces fonctions de gestion que nous les menons avec l'appui des populations.
Est-ce que ces populations sont rémunérées pour ce qu'elles font?
Oui, elles sont rémunérées pour ce qu'elles font et elles bénéficient des mêmes traitements que nos agents. Quand quand on prend par exemple la surveillance, les agents des populations ont droit à 7000 francs par jour, par personne. Donc s'il y a un représentant ou bien deux représentants qui accompagnent nos équipes, ils bénéficient des mêmes frais d'alimentation que nos agents. Ça, c'est des patrouilles ordinaires. Pour des patrouilles d'envergure, c'est une somme de 14000 francs par jour qu'on donne à tous ceux qui participent aux patrouilles d'envergure. Donc, comme au cours de l'année, chaque mois, il y a des patrouilles ordinaires qu'on fait, donc sur pratiquement 9 mois, celui qui participe régulièrement aux patrouilles ordinaires bénéficie de 7000 francs chaque patrouille ordinaire du 10 jours. Et donc, dans le mois, il a déjà 70 000. Mais là, pour les patrouilles d'envergure qui se déroulent sur 3 mois, ça fait 14 000 fois 10, ça fait 140 000. Donc, la personne ou bien l'auxiliaire villageois qui a travaillé avec nous pendant un an, il a 70 000 francs par mois sur 9 mois. Il a 140 000 francs par mois sur 3 mois. Et en dehors de la surveillance, il y a des activités d'aménagement telles que les entretiens des pistes avec les populations. Et ça, tous ces travaux sont rémunérés. C'est des contrats qu'on signe avec les groupements des populations, les groupements des villageois, comme le comité que vous avez rencontré, qui bénéficie de ces contrats-là. Et pour les pistes intérieures, c'est 30 000 francs par kilomètre. Et aujourd'hui, on a près de 150 km de pistes à l'intérieur de la réserve. De janvier jusqu'à fin juin, c'est autour de 31 millions en fait, qui sont entrés dans les poches de ces populations. Et là, c'est des chèques qu'on leur donne directement, ça ne passe pas par quelqu'un d'autre.
Ces populations sont-elles protégées, suffisamment protégées dans l'exercice de cet appui que ces communautés apportent à l'OIPR?
Oui, elles sont protégées parce qu'elles sont avec nos agents. Et il n'y a jamais eu d'incident en tout cas vis-à-vis de ces populations. Elles bénéficient de la protection de nos agents avec lesquels ils travaillent.
À quel degré ces agents de l'OIPR qui travaillent dans la réserve de Mabiyaya sont-ils protégés? Bénéficient-ils d'une protection spéciale eu égard aux braconniers, aux braconnages qu'on peut surprendre dans la réserve, eu égard aux infiltrants qui arrivent d'ailleurs pour s'installer dans la réserve?
Oui, ils sont protégés. La première protection, d'abord, c'est leur formation. Ce sont des paramilitaires qui sont formés à désarmer, en fait, des personnes, des délinquants qu'ils apprennent à l'intérieur. Donc déjà, c'est une première protection parce qu'ils sont suffisamment formés pour faire face à toutes sortes d'événements. En mettant des paramilitaires, tout le matériel dont disposent les militaires, dont ils ont tout ce matériel, ils ont également l'assurance maladie. Donc au niveau social et autres, ils sont suffisamment protégés. Et la hiérarchie s'attelle toujours à créer des conditions pour que nos agents soient dans de bonnes conditions et soient mieux protégés pour l'exercice de leurs fonctions.
À combien d'hectares peut-on évaluer la réserve naturelle de Mabiyaya?
La superficie de la réserve est estimée aujourd'hui à 61 282 hectares.
Alors, quelles sont les activités de conservation que vous pensez qu'on peut mettre en place dans cette réserve, en dehors de ce qui est déjà fait?
Il faut dire que pour la gestion de ces aires protégées, l'OIPR a défini un certain nombre d'activités qui sont regroupées dans ce qu'on appelle des programmes de gestion. Et donc, il y a la surveillance et la protection. Mais en dehors de la surveillance et de la protection, il y a ce qu'on appelle les mesures riveraines. Et au niveau des mesures riveraines, il y a trois axes. Il y a l'aspect communication pour les changements de comportement. Il y a l'aspect appui aux communautés locales, c'est-à-dire c'est des projets, des AGR ou bien des projets socio-communautaires que l'OIPR finance avec l'appui de ses partenaires. Et puis à tout ce qui est partenariat qu'on peut signer dans la zone périphérique pour mieux gérer cette réserve. Il y a aussi l'aspect qu'on appelle le suivi écologique qui nous permet d'apprécier l'état de santé de la réserve. C'est un programme spécial qui permet d'avoir des données et de savoir ce qu'on a dans la réserve et comment la réserve se porte. Et donc c'est un outil qu'on utilise pour connaître l'état de santé, l'état de conservation de la réserve. Il y a ce qu'on appelle aussi le programme relatif aux aménagements. Tout ce qui est piste, la piste que vous avez parcourue, ça fait partie des aménagements que nous faisons, y compris tout ce qui est matérialisation des limites qu'on fait, et également les bâtiments, les bases-vie qu'on construit également. Et puis, il y a l'aspect relatif à la gestion même de les protéger, où on travaille, en tout cas en collaboration avec l'ensemble des acteurs, pour que nous puissions nous unir autour de la réserve.
Avez-vous déjà participé à des activités de sensibilisation ou de conservation dans cette réserve, ou bien existe-t-il des activités de sensibilisation, de conservation de cette...
Oui, les activités de sensibilisation, je dirais, ce sont les premières activités que nous avons menées quand cette réserve a été créée et que l'OIPR devait prendre en main cette réserve. c'est les actes de sensibilisation. Pour informer les populations, pour informer les autorités locales du changement du statut des anciennes forêts classées qui sont devenues maintenant réserves. Puisque là, le statut a changé, donc les exigences ont changé. Le statut de réserve est beaucoup plus exigeant. Donc, les premières activités qu'on a menées, c'est de passer, les informer, leur expliquer les exigences et les implications du nouveau statut. Donc, les premières activités qu'on a menées, c'est les actes de sensibilisation. Et après, toute l'équipe s'est déployée. Et ensuite, nous avons commencé à faire l'état des lieux et l'ensemble des activités de gestion telles que la surveillance, le suivi écologique, les aménagements, les actes de mesure riveraine.
Alors, pensez-vous que des efforts de sensibilisation supplémentaires sont nécessaires, voire suffisants, pour informer le public sur l'importance et le rôle que joue cette réserve de Mabiaya?
Oui, les actes de sensibilisation sont des activités de longue haleine. C'est des activités, en tout cas, qui rentrent dans notre quotidien. Tant que la réserve est là et tant que nous serons là, on est obligé de sensibiliser parce qu'il peut y avoir des mouvements de population et même aller échanger chaque fois avec ces populations sur le bien fondé de la création de cette réserve. Parce que compte tenu des mouvements des personnes, compte tenu de ce qu'il y a de nouveaux enjeux, en tout cas, compte tenu aussi du changement de contexte à certains moments, on a l'obligation d'insérer dans nos activités la sensibilisation comme une activité routinière. Et on la fera, on va la faire. Tant que la réserve est là, tant que nous sommes là, on est obligé de faire la sensibilisation jusqu'à ce qu'on ait vraiment l'adhésion totale de toutes les populations.
Et quelle autre initiative aimeriez-vous voir être mise en place pour promouvoir la conservation de la réserve?
L'une des activités les plus importantes, c'est des appuis qu'on doit apporter aux populations. Aujourd'hui, l'OIPR cherche des financements pour renforcer des appuis aux populations. Et nous avons aujourd'hui des partenaires qui nous accompagnent. Aujourd'hui, il y a des projets que nous sommes en train de mettre en œuvre et qui ont mobilisé une partie des financements pour faire face aux besoins de développement des populations. Vous avez le projet d'investissement forestier dans sa phase 2 qui a mobilisé des financements pour financer des ateliers génératifs de revenus et des micro-projets socio-communautaires au profit des populations. Vous avez la compagnie Hershey qui nous appuie dans le cadre du projet d'appui à la gestion et à la protection de la réserve de Mabiaya, qui a également mobilisé des financements pour appuyer, en tout cas, la mise en œuvre des activités génératives de revenus et des infrastructures sociales de base au profit des populations. Il y a également le projet Makore, qui est financé par l'Agence française de développement. Et puis, il y a également le projet Territoire résilient, qui est financé par le Fonds français pour l'environnement mondial. En tout cas, chaque projet a mobilisé un certain montant pour faire face aux besoins des populations. Et aujourd'hui, pour nous, c'est aller dans le sens du renforcement de nos actions en faveur des populations qui sont en train, en tout cas, de se mobiliser pour nous aider à préserver ce patrimoine forestier.
Quelles sont les menaces qui pèsent sur la biodiversité de la réserve naturelle de Mabiaya et quels défis pensez-vous que cette réserve doit relever?
La principale pression aujourd'hui, c'est des infiltrations à des fins agricoles. Tous ceux qui rentrent, tous ceux qui viennent, en tout cas, ils rentrent pour créer des plantations de cacao. C'est vraiment pour pratiquer l'agriculture. En deuxième, il y a le braconnage qui, avec notre présence, sera maîtrisé le plus rapidement possible. Mais la principale activité illégale aujourd'hui contre laquelle les agents luttent nuit et jour, c'est vraiment des infiltrations à des fins agricoles. Des gens qui rentrent, créer des plantations de cacao à l'intérieur pour dégrader la forêt, pour détruire la forêt. Et ça, l'un des défis que nous devons relever aujourd'hui, c'est de faire en sorte d'arrêter tout ce qui est défrichement à l'intérieur de la réserve. Faire en sorte de préserver l'intégrité de cette réserve. De sorte que les 10% qui sont constitués des plantations de cacao puissent être reconvertis, en tout cas en forêt, vraiment d'un bref délai pour qu'on ait l'intégrité de cette réserve qui soit préservée.
Dites-nous, la réserve naturelle de Mabiaya est-elle fréquemment visitée? À quelle fréquence cette réserve est-elle visitée? À quelle fréquence les gens s'y rendent, les personnes, les touristes, les populations s'y rendent? Quelles sont les principales motivations qui animent les visiteurs de cette réserve? Que vous ont-ils dit à ce sujet?
Aujourd'hui, la valorisation touristique n'est pas pour le moment, je dirais, le point le plus important. L'OIPR, dans sa stratégie de conservation, c'est d'abord prendre en main la réserve. Quand l'OIPR agit dans un parc, c'est maîtriser d'abord le terrain. Et une fois le terrain est maîtrisé, toutes les conditions sont réunies, on passe à la deuxième phase qui est la valorisation touristique. Donc pour le moment, la valorisation touristique, c'est vrai, c'est l'une des options pour laquelle la réserve a été créée, mais l'Office ivoirien des parcs et réserves, son premier objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte que l'intégrité de cette réserve soit préservée. C'est d'éliminer ou du moins de réduire toutes les activités illégales à l'intérieur telles que des défrichements. Maintenant, malgré ça, il y a quand même des visites qu'on organise au profit, soit des groupes sociaux professionnels de la zone ou même de certaines personnes quittent les serrures, viennent de l'étranger pour faire des visites à l'intérieur. Surtout, pour le moment, la principale attraction, c'est le gigantesque Makore. Tous ceux qui viennent se dirigent vers le Makore pour aller l'observer, passer un peu de temps dans la forêt. Mais également, il y a des gens qui viennent spécialement pour se balader dans la forêt, respirer de l'air pur.
À quelle fréquence?
Pour le moment, on ne reçoit pas trop de visiteurs. Pour le moment, ce n'est pas la principale activité. Normalement, on devait fermer la réserve à toute entrée touristique. Mais si on le fait, ça ce n'est pas intéressant puisque déjà les gens ont cette habitude. Mais je ne peux pas vous dire qu'on a 10, 20 personnes, mais c'est des visites qui ne sont pas trop régulières, mais que nous suscitons pour créer en fait dans un proche avenir le goût des visites au niveau de la réserve.
Dans la gestion de la réserve naturelle de Mabiyaya, quelles améliorations aimeriez-vous voir?
Les améliorations qu'on aimerait voir, en tout cas, c'est surtout l'adhésion des populations à la préservation de cette réserve. Mon souhait le plus ardent, c'est que les populations, comme nous les considérons comme nos partenaires, qu'elles nous considèrent également comme leurs partenaires. Et donc, pour nous, c'est véritablement avoir l'adhésion de la population, que la population soit avec l'OIPR pour préserver cette réserve-là.
Pensez-vous que des partenariats avec des organisations locales ou internationales pourraient bénéficier à cette réserve? Si oui, comment?
Oui, des partenariats avec certaines organisations sont nécessaires et c'est ce que aujourd'hui nous cherchons à faire. Les médias jouent un rôle important, en tout cas dans le travail que nous sommes en train de faire. Et en termes de sensibilisation, les médias nous apportent un appui très important, déjà au niveau local, à travers les radios locales avec lesquelles on a signé des conventions. Et ces radios nous aident à faire passer des messages de sensibilisation. Mais en dehors de ces radios, il y a des ONG internationales qui interviennent dans la périphérie de la réserve qui, pour certaines, apportent des appuis en termes de développement local, aident par leurs activités à stabiliser l'agriculture ou à divulguer des bonnes pratiques agricoles de sorte que les populations ne puissent pas étendre leurs plantations de cacao ou bien les plantations de vire. Donc, il y a des bonnes pratiques agricoles que ces ONG-là sont en train de mettre en œuvre pour permettre à ces populations d'être beaucoup plus sédentaires et de rester sur place, de maintenir leurs plantations et d'éviter la déforestation. Et les mesures qu'on a mises en place, qu'on a entreprises, ont commencé à porter des fruits. Je sens que depuis que l'OIP a pris en main cette réserve, le taux de déforestation à l'intérieur de la réserve a quand même diminué. Avec les mesures qu'on a mises en place, pratiquement 3 ans, on a réduit le taux de déforestation annuel dans la réserve de près de 60%. Et grâce aux efforts qui ont été déployés également, la principale espèce emblématique qui est le chimpanzé de retour. Donc les deux aspects, notamment la couverture forestière et puis la recolonisation de cet espace par les principales espèces emblématiques, vraiment nous sommes dans de bonnes voix et nous voulons solliciter encore les populations pour qu'ensemble nous puissions mettre dans la main travailler pour véritablement préserver ce riche patrimoine. Je voudrais lancer un appel à tous nos parents qui sont autour de la réserve, à tous nos parents qui ne vivent pas autour de la réserve mais qui ont des intérêts dans cette zone de nous aider à préserver ce patrimoine qui est très important pour nous tous et pour les générations à venir. Quand vous regardez aujourd'hui la carte d'occupation du sol produite en 2020 par le BNET, vous voyez qu'il y a le parc national des Taïs qui est entièrement vert. Juste à côté, il y a la réserve des Cavali et la zone la plus verte encore, c'est dans la Mée. C'est la réserve naturelle de Mabiyaya et puis dans l'Indini Gablin, la réserve naturelle de Bossemati. Je voudrais encore lancer un appel à nos parents de préserver, de nous aider à préserver ce patrimoine qui est leur patrimoine. La présence de cette réserve permet de maintenir les conditions climatiques favorables aux productions agricoles.
Colonel Toulou Alain, je vous remercie.
Merci beaucoup. Merci de venir visiter la réserve. Merci de nous accorder ce temps d'antenne.
La réserve naturelle de Mabiyaya est un refuge vital pour la conservation des écosystèmes en Côte d'Ivoire, en ce qu'elle joue un rôle primordial dans la lutte contre la déforestation et la dégradation des habitats, ce qui en fait également un lieu d'importance pour la recherche scientifique. Sanctuaire incontournable pour la biodiversité, la gestion durable de cette aire protégée est essentiel pour assurer la survie des espèces rares et la protection des ressources naturelles, tout en offrant des bénéfices socio-économiques aux communautés environnantes. En tant que poumon vert de la région de la Mée, la réserve de Mabiyaya contribue à la régulation des cycles hydrologiques et à la séquestration du carbone, aidant ainsi à atténuer les effets du changement climatique. Son importance va donc au-delà de la conservation, touchant également à la sécurité alimentaire et au bien-être des populations locales, grâce à ses services écosystémiques. Le maintien de la réserve de Mabiyaya est aussi indispensable pour préserver la richesse culturelle et naturelle de la région, car elle sert de modèle pour la coexistence harmonieuse entre l'homme et la nature et démontre l'importance de la préservation des espaces naturels pour le développement durable à long terme en Côte d'Ivoire. À la technique, il y avait Antoine Kouassi, Marthe Kakou à ce micro. Merci de votre attention et à très bientôt sur Radio de la Paix.
Cette entrevue vous a été proposée avec la participation de CFI, Agence française de développement des médias, dans le cadre du projet Terra Africa.
C'était l'entrevue
Radio de la Paix.